Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. Ça tombe au plus mauvais moment. Voilà plus de 24 heures que La Poste est victime d'une cyberattaque. Distribution des courriers et des colis perturbés à domicile. Service en ligne indisponible aussi juste avant Noël. Les négociations sur le budget vont continuer pendant les fêtes. C'est ce qu'assure le gouvernement. Emmanuel Macron fait pression au lendemain de la présentation d'une loi spéciale hier soir en Conseil des ministres. Et puis alors l'eau qui redescend, mais très lentement ce matin à Agde où l'Hérault déborde depuis hier. C'est inédit depuis 30 ans. Le département est en vigilance rouge jusqu'à demain.
La Poste reste paralysée ce matin.
Oui, victime depuis plus de 24 heures maintenant donc d'une cyberattaque qui rend impossible les suivis de colis et de et la livraison aussi des courriers et des colis. Bref, ça tombe mal juste avant Noël, très très mauvaise période de l'année, Lou Garnier.
Le cauchemar juste avant Noël pour Rafik Smati. Il est entrepreneur. Il a notamment une entreprise de cadeaux personnalisés. À cause de la cyberattaque, il a changé en catastrophe le mode de livraison de ses produits, préférant Chronopost à Colissimo, un service plus cher mais non impacté par la panne. Et ça pourrait ne pas suffire.
Nous avons beaucoup de clients qui nous contactent, qui sont inquiets, qui se demandent légitimement s'ils vont recevoir leur cadeau de Noël à temps. On est sur plusieurs milliers de colis, ceux qui ont été expédiés notamment sur la journée de samedi. Il y a une inconnue.
Des milliers de colis en suspens à cause d'une cyberattaque dont les motivations sont inconnues pour le moment. La Poste affirme qu'il n'y a aucun impact sur les données de ses clients. Pour Jérôme Billois, expert en cybersécurité, l'objectif c'est de saturer les serveurs.
Ça consiste pour l'attaquant à se connecter des millions et des millions de fois au site internet jusqu'à ce que finalement le site craque sous la demande. La motivation des attaquants, c'est bien souvent de faire parler d'eux. Parce que justement, l'effet est très visible. Le site web ne marche plus, les services ne marchent plus.
Notamment en période de fête, période ciblée par les hackers qui sont sûrs de capter un maximum d'attention selon l'expert.
Alors à la veille du réveillon de Noël, il y a aussi ce cambriolage impressionnant dont on vous parle ce matin sur RMC, survenu à Duny, au nord de Paris, près de Paris, dans la nuit de dimanche à lundi. Plus de 50 000 téléphones et ordinateurs ont été dérobés dans un entrepôt. Le montant du butin est estimé à 37 millions d'euros, un site appartenant à une société chinoise du commerce en ligne. Les discussions budgétaires vont donc continuer pendant les fêtes, faute de compromis. Au Parlement, le gouvernement a présenté hier soir sa loi spéciale pour assurer la continuité des services de l'État en début d'année prochaine. Mais Emmanuel Macron met la pression pour qu'un vrai budget, en quelque sorte, soit trouvé au plus vite. C'est ce que fait savoir le président. Sous-entendu, il va falloir bosser pendant les fêtes, Thomas Becker.
Oui, pour le gouvernement, c'est clair. La loi spéciale permet uniquement de gagner du temps, quelques jours précieux pour négocier, comme l'explique hier soir la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, en sortant de l'Élysée.
Nous continuerons à travailler très activement dans les prochains jours pour que le 5 janvier, quand reprendra le travail de la commission des finances à l'Assemblée, nous n'arrivions pas depuis nos vacances, que nous arrivions depuis du travail.
Pas de trêve des confiseurs sur le budget parce que le gouvernement croit encore à un compromis. Les sénateurs LR et les députés socialistes, ceux qui tiennent des positions opposées sur les impôts et les dépenses, ont accepté, selon nos informations, de négocier à nouveau pendant les fêtes. Les réunions auront lieu à Bercy, dans le bureau de la ministre. Un objectif, converger sur le fond. Reste à savoir ensuite comment adopter le texte. Le bloc central et même quelques socialistes en coulisses demandent le retour du 49-3. Emmanuel Macron, hier soir, a rappelé les moyens à disposition, vote du Parlement, ordonnance ou le retour du 49-3, une façon de tendre la perche à son Premier ministre.
Alors on parlait de Bercy, mais bien Bercy dit suivre de très près le rachat annoncé de l'entreprise vendéenne Groupe Atlantique. Groupe Atlantique, c'est le numéro 1 français des pompes à chaleur et qui est en passe de passer sous pavillon japonais et américain. Romain Hung, vous allez nous expliquer pour RMC. C'est très intéressant parce qu'on parle là d'un secteur clé de la transition énergétique.
Oui, en fait, c'est la société Paloma Rim qui est derrière ce rachat de l'Atlantique, une transaction qui pourrait tout simplement faire passer le groupe parmi les leaders mondiaux du secteur. Encore faut-il que l'opération soit validée par le ministère de l'Économie. Prévenu il y a à peine quelques jours, Bercy dit suivre ce dossier de très près. Pour cause, Atlantique, c'est un fleuron de l'industrie française, une success story vendéenne, 12 000 collaborateurs, 31 sites industriels à travers le monde et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. faire. L'entreprise est devenue numéro un européen de la pompe à chaleur qui est au cœur de la stratégie d'électrification de la France portée par le gouvernement pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles produites par des pays étrangers. L'opération doit donc être soumise à une autorisation préalable de Bercy qui va se pencher sur le dossier. Pour l'heure, le montant du rachat n'a pas été divulgué, mais selon le journal Les Échos, la transaction pourrait s'élever à plus de 3 milliards d'euros. Le siège du site devrait toutefois rester en France, à La Roche-sur-Yon.
À 8h05 sur RMC, cette affaire en Dordogne, où le ministère de l'Intérieur envisage des sanctions contre un maire qui est d'ailleurs convoqué par le préfet du département aujourd'hui pour des propos antisémites tenus sur les réseaux sociaux. C'était au début du mois. Il avait appelé ce maire sur Facebook au boycott de l'Eurovision en référence à la participation d'Israël, en écrivant, je cite, que la France est trop youpine pour boycotter. Youpine étant une injure raciste pour désigner les juifs. Il est donc convoqué, ce maire, aujourd'hui pour une possible révocation, chose rare. C'est arrivé seulement 6 fois sous la 5e République. Après ces propos qui ont choqué dans la commune en question, à Aubignac, où s'est rendu Pierre Bourgès, le correspondant d'RMC.
Jean-François, un habitant investi dans le tissu associatif d'Aubignac, a été très surpris en découvrant les propos de son maire.
Ici, on cultive le vivre ensemble, et ce discours, en quelque sorte, a tout gâché d'un seul coup. Et là, maintenant, il va falloir réparer.
Bernard Bazinet a été exclu du Parti Socialiste. L'État pourrait aussi le sanctionner et mettre fin à ses fonctions. Mais faut-il révoquer le maire? Les habitants sont partagés.
C'est étonnant venant de sa part. De là à dire qu'il ne doit plus être maire, moi, je ne pense pas ça.
Vous trouvez que c'est normal? C'est bien, c'est super. Moi non. Et c'est navrant. Au moins qu'il soit révoqué, c'est tout. Il faut assumer ses actes.
Depuis le début du mois, la mairie reçoit de nombreux appels de la part d'habitants choqués.
Il y a des gens qui appelaient, qui étaient juifs. Je dis, je comprends que vous soyez blessés.
Cécile Grasset est conseillère municipale sans étiquette à Aubignac.
Je ne cautionne pas du tout. Pour moi, c'est une faute, mais on le soutient malgré tout, puisque on peut toujours réparer. Et il faut y réfléchir à comment les gens qui ont été blessés ont besoin de réparation.
Et cela commence par une lettre d'excuse, explique-t-elle. Le maire, qui n'a pas souhaité répondre à RMC, est en train d'en écrire une pour l'envoyer à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
De nouveaux blocages d'agriculteurs ce matin, par exemple sur l'autoroute A11 à Angers, où des éleveurs se sont installés, raconte le journal Ouest-France, pour s'opposer à la politique sanitaire du gouvernement face à la maladie bovine. Il y avait une trentaine de blocages qui étaient recensés hier soir, une dizaine de plus que la veille, notamment toujours sur les autoroutes A63, A64, A75. Un nouveau cas de dermatose nodulaire repéré dans un village des Pyrénées-Orientales. Une vache appartenant à un élevage d'ailleurs déjà touché, vache qui avait été vaccinée. Le ministère de l'Agriculture l'explique par le temps d'incubation du vaccin. La décrue, je vous le disais, est très lente ce matin à Agde, dans l'Hérault, où le cours d'eau, qui a donné son nom au département, est sorti de son lit depuis hier après-midi. 30 ans que c'était pas arrivé, depuis l'hiver 94-95, inondant certaines rues. Il y a normalement une vingtaine de centimètres à la station qui sert pour les relever à cet endroit. Là, on est quasiment à 3,50 m. Le pic a été atteint dans la soirée, mais depuis hier soir, l'eau n'est redescendue qu'une dizaine de centimètres. Autrement dit, la décrue est très, très lente. C'est ce que constatent ces habitants interrogés ce matin par Anna Jojard à Agde pour RMC.
C'est vrai que ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, quoi. On voit plus les trottoirs, tout ce qui est les berges de l'Hérault, là c'est complètement sous l'eau, quoi.
C'est quand même spectaculaire aussi, il faut dire. Donc je suis venu voir. En fait, en 8 ans, on n'a jamais monté autant. Hein. Les bateaux sont sur les quais quasiment. Il n'y a pas eu de dégâts dans le quartier de mon côté. Apparemment, je crois qu'il y a eu des bateaux qui sont partis, mais j'ai pas plus d'infos que ça. C'est très impressionnant. Ouais.
Le marché de Noël était carrément fermé hier à Montpellier. L'Hérault qui reste en rouge pour les crues. La Lozère est en orange. Le Tarn et l'Aveyron sont aussi en orange, mais pour la neige et le verglas, ça doit durer jusqu'à la fin de matinée, voire la mi-journée. Et puis le foot, c'est l'entrée en lice aujourd'hui du Nigeria, du Sénégal, de la Tunisie et de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations que vous suivez sur RMC, vous le savez, radio officielle. Hier soir, l'Égypte et l'Afrique du Sud ont respectivement battu le Zimbabwe et l'Angola 2-1, le même score pour les deux matchs.
C'était le journal de Quentin Vinet et c'est l'heure de parler économie à 8h09.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, on va payer l'eau potable beaucoup, beaucoup plus cher au cours des prochaines années. Ça commence dès 2026.
Oui, on a eu des années de relative sagesse et puis un emballement ces dernières années. Nos factures ont augmenté de plus de 15% au cours des 3 dernières années. C'est ce que nous dit UFC Que Choisir. Et le problème, c'est que cette hausse, elle s'explique par des raisons qui sont toutes structurelles et donc qui sont là pour durer, ce qui fait craindre des augmentations qui pourraient atteindre entre 20 et 75% d'ici 2031 selon les régions. Ça veut dire que grosso modo, notre facture annuelle pourrait nous coûter 150 à 600 euros de plus qu'aujourd'hui.
Ça fait
ah oui, c'est pas une goutte d'eau, c'est le cas de le dire. Et dès le 1er janvier, c'est la partie dépollution qui va grimper avec la recherche systématique dans l'eau des PFAS, ce qu'on appelle les polluants éternels, hein, ces produits chimiques ultra résistants jugés nocifs, puisque bah, dans partout où le niveau de PFAS dépassera la norme, et bah, il faudra mettre en place des retraitements qui vont coûter cher.
Tout pousse les prix de l'eau à la hausse.
Totalement, effectivement, au-delà de respecter des normes sanitaires plus strictes, les PFAS, on l'a dit, les pesticides aussi. Il va falloir investir dans des réseaux vieillissants, parfois centenaires, 20% quand même de pertes hein, de réseaux sur les réseaux. Il faudra aller toujours plus loin dans l'assainissement et la dépollution. La dépollution et l'assainissement, c'est quand même 40% de notre facture aujourd'hui. Il faudra mettre aux normes les stations d'épuration et puis investir pour s'adapter aussi aux pénuries pendant les sécheresses.
Comment est-ce qu'on sait si on paye une eau trop chère ?
Eh ben, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors aujourd'hui, il y a le prix facial. On sait que les régions les plus chères, c'est les Hauts-de-France, la Bretagne, on est à plus de 5,30 € le mètre cube. À l'opposé, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Grand Est, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, on est en dessous de 4,40 € le mètre cube. Sauf que le prix de l'eau, ça dépend d'énormément de critères. Est-ce qu'elle est facilement disponible ? Est-ce qu'elle est complexe à distribuer ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des problématiques de dispersion de l'habitat ? Ou bien de forte volatilité de la population si vous êtes une station touristique. Et donc, il y a des critères qui ont été mis en place, hein, les critères 6PA. Et donc, il y a certaines villes qui peuvent paraître chères, mais compte tenu de toutes les contraintes techniques, bah, c'est des prix plutôt raisonnables. Là, on est plutôt à Nice, Marseille, Toulon. Il y a des villes où les prix sont plutôt corrects, c'est Rennes, Angers, Strasbourg. Et puis d'autres villes, comme Montpellier, Perpignan et Mulhouse, où la facture pourrait être moins élevée. Mais sachant qu'il y a des endroits où elle va paraître pas chère, mais où en fait elle pourrait être beaucoup moins chère, et des endroits où elle va paraître chère, mais compte tenu de la difficulté à obtenir l'eau, à l'assainir, etc., ben c'est pas si cher que ça.
Bon, globalement, c'est...
Le coût d'approvisionnement varie énormément selon les villes. C'est bon, ça qu'il faut retenir.
On va la payer plus cher.
Et c'est pas parce que votre facture est élevée que votre fournisseur d'eau abuse.
Et c'est pas parce
et à l'inverse, c'est pas parce qu'elle est pas chère qu'il abuse pas.
Voilà.
On y arrive.
Merci Emmanuel. Emmanuel Lechypre, il est 8h12, on part au 32-16. Sandrine Fromagère à Chartres qui nous appelle. Bonjour Sandrine.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Sandrine ? Est-ce que la boutique est ouverte à 8h12 ?
Non, on ouvre à 9h.
Vous ouvrez donc, à 9h.
Voilà.
Il y a des commandes, j'imagine.
Oui, il y a beaucoup de commandes. On va travailler toute la nuit pour que tous les clients aient leurs commandes demain matin dès 9h.
Des commandes de quoi ? De plateaux ?
De plateaux de fromage, beaucoup de raclette cette année.
Ah oui, alors ça, il paraît que c'est la star, y compris dès demain soir.
Oui. Là, même toute la semaine, là, on fait beaucoup, on propose des plateaux de raclette avec de la charcuterie. Mmh. Ça plaît énormément. Et oui, on en a vraiment, vraiment beaucoup.
C'est très convivial, très sympathique. Oui. Et en effet, ça plaît à tout le monde. Sandrine, qu'est-ce que vous nous recommandez comme fromage en particulier, là, pour le plateau de demain soir?
Alors, bah, cette année, enfin, tout comme tous les ans, c'est parce que je travaille avec mon mari et il fait un excellent brie à la truffe avec de la vraie truffe noire du Périgord. Mmh. Et ça, c'est vraiment, en effet, c'est vraiment la star de notre site.
Un beau morceau de brie. Vous travaillez en famille, donc en couple, tous les deux.
En couple et avec 5 collaborateurs formidables.
Trop
ils
sympa.
Sont hyper consciencieux, sympa et investis.
Et avec Apolline Matin, donc en fond sonore.
C'est ça, exactement, tous les matins.
Trop sympa. Sandrine, dites-nous le nom de la fromagerie.
C'est la ferme Sainte-Suzanne à Chartres.
La ferme Sainte-Suzanne à Chartres. Vous pouvez y aller encore donc aujourd'hui. La boutique ouvre à 9h. Hein.
C'est ça.
Très belle journée à vous, Sandrine. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci de votre fidélité. Il est 8h14.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, on va se détendre avec Arnaud Demange. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, c'est le ministre de l'économie, Roland Lescure. Il n'y a pas de budget, mais il y aura une loi spéciale. Elle doit être votée aujourd'hui pour que la France puisse continuer à tourner. Adoptée donc cet après-midi, si tout va bien. Les discussions sur le budget ne se sont pas arrêtées et ne devraient pas s'arrêter pendant les fêtes. Sauf que, du côté de l'Assemblée nationale, ils ont l'air de pas être tout à fait prêts à reprendre le boulot dès le 5 janvier, comme le demande la ministre du budget, Amélie de Montchalin. Le ministre de l'économie l'économie. Donc Roland Lescure, dans un instant, quelles conséquences de cette loi spéciale pour nous tous, pour les impôts, pour les dépenses et pour un certain nombre de services de l'État. Réponse donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, il y aura aussi le meilleur de Nicolas Canteloup. Ce sera à 8h50. A tout de suite, il est 8h15.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h17 sur RMC et RMC Story. Arnaud Demanche a pris quelques jours, mais on le retrouve à la rentrée. Et on a gardé le meilleur d'Arnaud Demanche. Arnaud Demanche qui est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour Apolline. Oui. Bonjour à tous les amis. C'est Noël. Mais Noël approche. Alors découvrons aujourd'hui qu'est-ce qui se cache dans le calendrier de l'Avent du LOL. Oh, un jeu de société. C'est Fachorama. C'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu qui fait scandale au ministère de l'Intérieur. C'est un genre de jeu des sept familles édité par des antifascistes. Et dans Fachorama, il y a un perso flic raciste de la BAC. Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a porté plainte pour injure. Il porte beaucoup plainte en ce moment. Hein. Il y a 15 jours, c'était contre Pierre-Emmanuel Barré, humoriste. Là, c'est contre un jeu de société. Il va finir par porter plainte contre la patte-patrouille. Il va débouler devant son fils. Matteo Nunez, qu'est-ce que je vois? Alors comme ça, les policiers, c'est des chiens? Mais papa, non, c'est mon dessin animé préféré. Je t'ai pas élevé comme ça. Mon fils est un gauchiste. Mon fils est un gauchiste. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des jeunes à bonnet qui vivent torse nu dans la nature. Mais c'est les schtroumpfs.
C'est des zadistes.
Non, c'est des zadistes. Papa va devoir gazer les schtroumpfs. Oh. Est-ce que l'ordre des médecins a porté plainte contre le docteur Maboul, hein? Et pourtant, l'anesthésiste de Frédéric Péchier pourrait crier au plagiat. Il a des trucs à dire. En tout cas, c'est une bien belle idée de cadeau pour votre neveu LFiste, Fachorama.
Ouais, alors, dans la famille gros bourge de cato intégriste de merde, je demande le mari et le cousin. Perdu, c'est le même. Oh, j'aurais pas dû choisir la famille. Oh.
Nicolas Sarkozy a donné un grand entretien au Point, et pour l'ancien président, Jordan Bardella aurait pu être un jeune du RPR des années 90.
Ouais, son papa aurait été Alain Juppé, sa maman Charles Pasqua. Ah, j'aurais bien aimé voir la nuit de noces. Dis donc Charles, je ne te savais pas si séduisant.
Oh Alain, qu'est-ce qui nous arrive? Sens-tu la chaleur monter?
Allez en piste, enlève ton pantalon. Et 9 mois plus tard, Jordan Bardella naissait. Non, en fait, on n'aurait pas aimé voir la nuit de noces. Alors Nicolas Sarkozy le dit dans son livre, il ne veut plus faire barrage systématiquement au RN, il trouve que ça sert à rien. Donc en 2027, il n'appellera pas forcément à barrer la route à Marine Le Pen, voire il n'appellera pas du tout à lui barrer la route, voire il appellera à voter pour elle. De toute façon, je vois, il le dit dans son bouquin, page 88, je cite, « Je vais pas voter pour ces connards de LR qui m'ont même pas envoyé un SMS, alors qu'au RN, ils ont été sympas. » Je traduis
un peu. C'est ça, vous traduisez quand même un petit peu.
Je ne trahis pas l'esprit, mais c'est un peu traduit. Je le dis avec mes mots à moi.
La télévision espagnole, enfin les télévisions espagnoles, irlandaises, néerlandaises et slovènes boycotteront l'Eurovision pour protester contre le maintien d'Israël au sein du concours.
Oui, donc il va plus rester qu'Israël et la France, en fait, si tout le monde boycotte. Et vous savez ce que ça veut dire?
On va gagner.
Ça veut dire qu'on a une chance de finir deuxième. Oui,
deuxième.
Alors, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, a déclaré « Jamais la France ne s'engagera dans la voie d'un boycott d'un peuple, de ses artistes ou de ses intellectuels. » Artiste et intellectuel. Il a déjà regardé l'Eurovision. Ça reste des amateurs de tectonique moldave équipés d'une grosse moustache en plastique avec des chapeaux en forme de plots de chantier qui font de la harpe laser dans de la fumée rose, quoi. C'est pas Boualem Sansal qui représente les pays au concours. C'est pas des trucs.
La FIFA, Arnaud, a annoncé qu'il y aurait non plus seulement des mi-temps, mais aussi des cartons désormais, hein, donc pendant les matchs de la Coupe du Monde 2026, une pause hydratation de 3 minutes.
Ouais, vous imaginez s'ils faisaient des pauses hydratation au rugby, ce serait marrant, les joueurs reviendraient sur le terrain 3 heures plus tard, défoncés à la bière, incapables de savoir de quel côté on joue. Là, ce sera au foot, et pendant cette coupure, les diffuseurs pourront insérer de la pub, il y aura de la pub partout pendant cette Coupe du Monde. C'est quoi la suite pour la FIFA? Ils vont insérer des pubs pendant les commentaires de match. AMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Gilbert Bribois.
On est de retour après la pub pour ce Metz Le Havre et on est avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Et oui, malheureusement la pub est finie. On est obligé de continuer à regarder cette purge de match.
Ah Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. Oui, la FIFA nous demande de mettre des pubs partout, donc on va. Ah, coup franc. Coup franc, c'est Sabali qui s'apprête à tirer. Et ce coup tiré vous est offert par Jackie et Michel. Et c'est le but. But, on se lève tous du banc. Oui, on se lève tous du banc pour Danette. Quel trou dans la défense. Heureusement, Carglass répare et Carglass remplace.
Qu'est-ce qu'il est nul, ce gardien du Havre. Il est d'une lourdeur. Tu sens qu'il a bouffé tous les chocos suisses. Hein. Ça saute pas très haut, le mec. Pourquoi il joue là, d'abord?
Parce qu'il le vaut bien, Daniel.
Il y aurait un truc de fun, en tout cas. Ça changerait. J'achète.
C'était le meilleur d'Arnaud Demange. Arnaud Demange qu'on retrouve à tout moment en podcast sur RMC et sur rmc.fr. 8h22, on joue et on gagne.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Je suis chaque matin aussi excitée de vous offrir ces cadeaux et d'ouvrir la case du calendrier de l'Avent. Bonjour Philippe.
Bonjour
Philippe, félicitations. Mais ouais, ça y est, c'est parti, c'est vous ce matin. C'est vous qui avez été tiré au sort pour gagner. Vous êtes informaticien à Meudon. Alors on ouvre la case du 23. Attention, c'est l'avant-dernière. Vous êtes prêt Philippe?
Oui, je suis prêt.
Waouh, vous avez remporté une Smart TV QLED 4K 65 pouces. Elle fait 165 cm et c'est une valeur de 600 euros. Félicitations Philippe.
C'est
cool. Eh ben félicitations, joyeux Noël. Vous allez pouvoir regarder RMC Story en très 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 grand.
Oui, je vais continuer à regarder RMC.
En très 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 grand. Philippe, vous avez déjà prévu ce que vous alliez manger pour Noël ou pas?
Là, on est parti sur un plateau de fruits de mer. Il y aura du foie gras aussi. Plein de bonnes choses.
Plein de bonnes choses.
Avec du bon vin.
Avec du bon vin, mais évidemment. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce que vous savez que, alors là, j'ouvre les guillemets, nous n'avons pas le droit trop de parler de ça parce qu'il faut à chaque fois dire que c'est évidemment avec modération. Mais bien sûr qu'un bon repas de réveillon va avec du bon vin. Vous pouvez nous dire ce que vous avez prévu, Philippe?
Pour le vin?
Ouais.
Alors, pour le vin, en liquoreux, on se rêve sur un vin du sud-ouest. Jurançon, du sud-ouest. Hein.
Ouais,
et puis ensuite, on basculera sur un vin blanc, sur un puits frissé. Et puis, voilà, on finira avec un vin rouge.
Moi, je me suis arrêtée au puits frissé, mais effectivement, avec le bon fromage, comme on avait la fromagère tout à l'heure, de Chartres, qui nous mettait l'eau à la bouche. Merveilleux. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, de votre fidélité. On est très heureux de la célébrer avec vous, cette fidélité avec le calendrier de l'Avent. Félicitations. C'est vous qui avez gagné donc ce matin. Et joyeux Noël encore à vous. Il est 8h24. Et à 8h24, je pars pour vous parler de votre économie, de vos impôts, de la dépense publique, puisque mon invité, c'est le ministre de l'économie, Roland Lescure. C'est raté pour le budget, mais il devrait y avoir une loi spéciale qui doit être adoptée aujourd'hui, si tout va bien. Qu'est-ce que ça change concrètement, les conséquences de cette loi spéciale pour chacun de nous? C'est dans un instant, les réponses du ministre de l'économie sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Solène Gardré.
L'Hérault maintenu en vigilance rouge ce matin pour de fortes crues. Plusieurs routes sont inondées après le débordement du fleuve hier. Pas de grosses interventions signalées cette nuit, mais Éric Flores, le directeur des sapeurs-pompiers de l'Hérault, appelle à la prudence. Il était l'invité de RMC ce matin.
Très peu d'interventions cette nuit parce que forcément il y a un petit peu moins de personnes sur la route. La problématique que l'on a, c'est que un grand nombre de personnes essayent de franchir des routes qui sont fermées et elles se mettent en danger toutes seules parce qu'une fois qu'elles sont enfermées dans leur voiture et que tout est bloqué dans l'eau, il faut qu'on aille les chercher. C'est très clair. En ce moment, la décrue va commencer, mais on a encore énormément de routes qui sont bloquées. Suivez les indications, suivez les panneaux, parce que lorsqu'on ferme une route, c'est vraiment que personne ne peut y passer. La problématique que les gens ont, ils pensent que leur voiture peut passer, elle est plus grosse que les autres, et puis elles sont bloquées comme les autres.
Les départements voisins, le Tarn, l'Aveyron et la Lozère, restent eux aussi en vigilance orange pour risque de crue. L'inquiétude monte chez les producteurs de lait. Hier, la Chine a annoncé augmenter ses droits de douane sur certains produits européens jusqu'à 43%. Et parmi eux, le lait, la crème et certains fromages comme le camembert et le roquefort. Une mesure qui inquiète bien sûr les industriels du secteur, Antonin Audion.
Tout part de la taxe européenne sur les voitures électriques chinoises décidée en 2024. En représailles, Pékin a visé les produits symboliques comme le cognac ou la filière porcine. et depuis ce matin, les produits laitiers. Une augmentation de 30% des droits de douane sur ces produits, c'est insoutenable pour François-Xavier Huard, président de la Fédération nationale de l'industrie laitière.
C'est un choc et c'est un vrai coup de massue, surtout pour les éleveurs qui actuellement ont besoin plutôt qu'on leur donne des perspectives qu'on leur ferme des marchés.
Et pas n'importe quel marché, la Chine, c'est 50 000 tonnes de crème et 6 000 tonnes de fromage exportés par an. Sa crainte, c'est de ne plus pouvoir écouler toute cette production.
Tout le lait qu'on ne pourra pas exporter sous forme de produits demain laitiers, ça veut dire qu'il faudrait qu'on leur trouve des débouchés, parce que concrètement, à ces niveaux-là, c'est plus plusieurs dizaines de milliers de tonnes qu'on va exporter en Chine, c'est à peine quelques milliers.
La ministre de l'Agriculture dénonce une décision inacceptable et se dit déterminée à défendre les droits et les intérêts des entreprises concernées.
Espérons qu'il n'était pas attendu sous le sapin. 36 000 téléphones ont été volés dans un entrepôt à Duny, en Seine-Saint-Denis. Un cambriolage estimé à 37 millions d'euros. Autre cafouillage avant Noël, une cyberattaque perturbe le bon fonctionnement de la Poste et immobilise ses services en ligne depuis hier matin. Impossible de se connecter à son compte bancaire ou de suivre son colis. La distribution des colis à domicile est elle aussi perturbée. Dans le Rhône, l'activité reprend ce matin à Saint-Fons, près de Lyon, après l'explosion hier qui a fait 4 blessés dans une usine classée Seveso qui produit du silicone. De nouvelles analyses sont prévues aujourd'hui pour s'assurer qu'il n'y ait aucune toxicité. La loi spéciale sur le budget passe devant le Parlement. Aujourd'hui, elle devrait être adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat et permettre de financer temporairement l'État en l'absence de budget. Budget que le gouvernement espère toujours voter à la rentrée. Elle devrait être fixée sur leur sort aujourd'hui. Deux jeunes Françaises incarcérées en Turquie depuis 10 mois comparaissent devant la justice. Elles sont accusées d'avoir transporté 25 kilos de cannabis dans leur valise. Leurs avocats s'attendent à une condamnation. Elles risquent 7 à 12 ans de prison. Troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, 4 rencontres à suivre sur RMC, notamment l'entrée en lice de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Tunisie. Hier, l'Égypte a vaincu le Zimbabwe en dernière minute, 2-1, grâce à un but de Mohamed Salah. Enfin, c'est une arrivée qui fait parler à l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien Hendrick va être prêté au club pour la deuxième partie de saison. L'attaquant du Real rejoint l'OL pour 6 mois.
C'était le rappel des titres de Solène Gardré. Dans un instant, mon invité, c'est le ministre de l'économie, Roland Lescure.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Vous êtes ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique, numérique. Et au fond, je dis tout ça parce qu'effectivement, il y a des sujets sur pratiquement tous vos dossiers, les dossiers de votre ministère. Mais bien sûr, Roland Lescure, vous espériez ce matin pouvoir venir avec un budget. Il y en a pas. C'est raté. Il n'y a pas de budget.
Il y en a pas encore.
Il n'y en a pas. Encore, vous n'avez pas tout à fait dit votre dernier mot. Il pourra peut-être y en avoir un début janvier, on va y revenir. Mais ce que vous espérez en tout cas, c'est que d'ici ce soir, il y a une loi spéciale. Ça passe, c'est sûr, ou il y a encore un doute?
Écoutez, ça devrait passer. La loi spéciale, c'est très simple. C'est la roue de secours qui vous permet de faire les quelques kilomètres qui vous amènent à la station pour changer les roues et avoir un budget pour l'année prochaine et repartir, j'allais dire, de plus belle. Une loi spéciale, je vous amène un cadeau, ça ressemble à ça.
Alors voilà, ce que vous avez entre les mains, et je le décris pour ceux qui sont sur RMC, vous avez en fait apporté deux choses.
Oui,
d'un côté, le vrai budget, alors là il est très 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 lourd.
400 pages, 80 articles.
Le vrai budget, effectivement, le vrai projet de budget, il est très lourd. Et l'autre, c'est quoi?
C'est ça qu'il faut adopter.
Ça, c'est ce que vous espérez.
C'est ça qui permet de financer les gendarmeries, les écoles, les services publics, de taxer les petits colis, de financer les contrôles douaniers. Ça, c'est ce qu'on doit adopter d'ici la fin janvier. Ça, c'est ce qu'on a adopté.
Et ce que vous aviez dans l'autre main, c'est le projet de loi spéciale, et ça, c'est vraiment, c'est quelques pages.
C'est une douzaine de pages, c'est 3 articles. On va lever l'impôt, on va financer les collectivités locales, et on va pouvoir lever de la dette, emprunter, pour financer notre dette. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va faire le minimum pendant quelques jours, quelques semaines.
Pour que l'État continue de tourner.
Exactement. En France, il n'y a pas ce qu'on appelle de shutdown. Vous savez qu'aux États-Unis, quand
si le budget n'est pas adopté, aux États-Unis, tout s'arrête.
On arrête de payer les fonctionnaires. Nous, on va évidemment continuer à payer les fonctionnaires, continuer les services essentiels. Les écoles vont rouvrir à la rentrée. Après les vacances, tout ça, ça va rouler. Zéro investissement nouveau. Ça veut dire... Si on a lancé par exemple un programme de construction de prison, Gérald Darmanin, ça s'arrête jusqu'à ce qu'on ait un budget. Les écoles, Édouard Geffray a annoncé le changement dans le recrutement des instituteurs et des professeurs qui vont pouvoir commencer à partir de Bac+3 avec un nouveau concours.
Là, ça ne fait que reconduire au fond le budget de l'année précédente.
C'est ça, ce qu'on appelle les services minima qui permettent à l'État de fonctionner. Mais tous les nouveaux investissements, par exemple dans les ordinateurs quantiques, dans la décarbonation de l'industrie, dans l'enseignement, dans les collectivités locales, des nouveaux investissements.
Je comprends bien,
tout ça,
je comprends bien. Évidemment que vous avez intérêt à ce que la machine. On a tous intérêt à ce qu'on puisse à nouveau investir, se projeter. Mais au fond, quand on voit le renoncement, et d'ailleurs la plupart des députés eux-mêmes le disent, jusqu'en 2027, personne, les Français eux-mêmes ont bien compris qu'il se passerait pas non plus grand-chose. Je vais faire un peu de provoque. Pourquoi vous vous contenteriez pas pendant un an de cette loi spéciale?
Parce que, je parlais tout à l'heure de route de secours, vous savez, c'est comme ces galettes qui permettent d'avancer à 80 km/h sur l'autoroute et qui risquent d'exploser.
Enfin, on avance déjà un peu à 80 km/h.
Et justement, l'idée, c'est qu'on retrouve une activité normale. On va pas transformer la France en profondeur d'ici 2027. Mais on va nettoyer la piste de décollage de manière à ce que ceux qui se projettent sur 2027...
Vous êtes très transport, hein. Très voiture, décollage.
C'est le moment, vous savez.
Route secours.
On part. Et on espère qu'on va pouvoir le faire, d'ailleurs, vous et moi, dans nos familles, pour fêter Noël, en voiture, en avion, en train. Donc, effectivement, je suis assez transport. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir à la fois un vrai débat, en 2027, sur les sujets fondamentaux auxquels on fait face, la place de la France dans le monde, le financement du modèle social, la fiscalité, évidemment, tout ce qui fait que la France sera ce qu'elle sait dans les 10 ans qui viennent. Par ailleurs, il faut gérer la France au quotidien. Faut qu'on avance.
Au quotidien et dans l'immédiat des prochains jours, pas d'inquiétude.
Non.
Tout fonctionnera à peu près comme il faut.
Ça va fonctionner, mais on ne va pas investir. Donc on va gérer le présent.
Combien de temps ça?
Mais le problème, c'est que plus ça dure, plus ça coûte. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple. Les associations, dans une loi spéciale, 12 pages, on ne peut pas financer les associations. Pour pouvoir financer les associations qui accompagnent les Françaises et les Français dans plein de domaines importants, il faut un budget, il faut les 400 pages. Parce que c'est ça qui prévoit de les financer. Ne pas financer les associations pendant quelques semaines, ça ira, on se rattrapera. Si vous passez à 2, 3, 4 mois, c'est fini, vous allez avoir un trou.
Mais alors du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça coûte plus cher d'avoir une loi spéciale. Alors qu'en réalité, il y a un certain nombre d'investissements qui du coup ne se feront pas.
Exactement. Donc vous avez des investissements d'avenir qui sont bloqués, et vous avez par ailleurs des dépenses de fonctionnement qui continuent à galoper. Parce que dans un budget, il y a aussi des économies. Dans un budget, il y a tout ce qu'on fait pour limiter la hausse qu'on appelle tendancielle des dépenses de l'État, qui fait que si on met pas le frein, ça continue à se développer. Donc vous avez d'un côté, je dirais, le mauvais gras qui continue à prospérer, et de l'autre, le bon, lui, qu'on ne peut pas.
On est passé sur la métaphore alimentaire.
Mais voilà, aujourd'hui, on est à Noël.
Du transport.
Une fois qu'on a pris le train, on arrive dans sa famille et on mange du gras.
Roland Lescure, cette loi spéciale qui donc a été présentée en Conseil des ministres hier soir, présentée à l'Assemblée ce matin, sera vraisemblablement votée d'ici ce soir. Mais Emmanuel Macron qui dit qu'il souhaite un budget au plus vite. Au plus vite, ça veut dire d'abord quand et qu'est-ce qu'on met dedans? Quand vous-même, la ministre du Budget, avait évoqué une reprise des travaux à l'Assemblée nationale le 5 janvier. Mais semble-t-il, un certain nombre de députés eux-mêmes ont dit mais nos services ne sont pas censés bosser le 5 janvier. Est-ce que vous avez bon espoir que le lundi 5 janvier, vous aurez tout le monde au garde-à-vous à l'Assemblée nationale?
Alors, le Parlement est rarement au garde-à-vous devant le gouvernement, surtout quand on
mais
a un Parlement
ils auront
aussi
ouvert la boutique
aujourd'hui. Mais on va commencer à travailler dès aujourd'hui par des échanges informels sur les éléments de budget qui ont déjà été discutés à l'Assemblée au Sénat, parce qu'on part pas de zéro, il y a déjà eu beaucoup de discussions. Deux, on souhaite effectivement pouvoir commencer ce qu'on appelle les travaux en commission dès que possible, le 5 ou le 6. Mais pour commencer le 5 ou le 6, il faut que les parlementaires puissent déposer des amendements quelques jours avant. Donc la question c'est, est-ce qu'on donne comme délai de dépôt d'amendement le 1er, le 2 ou le 3, de manière à ce que la commission puisse commencer le 5 ou le 6? Mais un, le travail commence avant, deux, il se poursuit en commission, et très vite, il faut qu'on aille en séance, parce que le président de la République l'a dit, mais je vous le confirme, il faut qu'on ait un budget le plus vite possible pour qu'on passe à autre chose. On avance.
Le 49-3.
Non, parce que.
Et c'est quand même le plus efficace. Si vous voulez vraiment passer à autre chose rapidement, à un moment,
c'est
il faut
plus
peut-être
efficace.
Sortir le 49-3.
La dernière fois qu'un 49-3 a été utilisé en France, ça s'est bien passé. L'avant-dernière, on n'a eu ni budget, ni gouvernement. Et ça, ça a duré pendant 2 ans. Je trouve absolument fascinant que l'instrument le plus honni de la 5e République depuis 3 ans soit d'un seul coup devenu le doudou de tout le monde auquel on se raccroche, là aussi on est à Noël, pour se dire, s'il vous plaît, donnez-nous le 49-3, ça va nous rassurer. La réalité, c'est quoi? Pour qu'on comprenne bien.
Ici même, à ce même micro, hier, Philippe Juvin, rapporteur du budget, le disait, il disait au fond, en privé, désormais, tous les socialistes le disent, ils veulent un 49-3.
Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais aux consultations du Premier ministre hier. On a rencontré tous les groupes, du Sénat et de l'Assemblée. Il n'y en a pas un qui nous l'a demandé. Donc, je veux bien qu'on en parle sur
le plateau. Et Emmanuel Macron, hier soir, il ne vous l'a pas suggéré?
Non. Le président de la République, il a rappelé les trois manières d'adopter un budget.
Dont le 49-3.
Soit on le vote, soit on passe en 49-3, soit on passe par les ordonnances. Il a rappelé l'évidence. Il a rappelé surtout l'urgence d'adopter un budget. Mais la réalité, c'est que si vous passez un 49-3 sur un texte sur lequel les gens ne sont pas d'accord, vous n'aurez ni budget, ni gouvernement, puisque le gouvernement tombera.
Vous pensez que dans ce cas, la censure serait quasi immédiate?
Si vous faites un 49-3 sans vous être mis d'accord sur un texte, oui. Et donc, la priorité, c'est de se mettre d'accord sur un texte. Et c'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez un texte sur lequel on est d'accord, le Premier ministre s'est dit, il l'a dit en octobre, je pense, je n'aurai pas recours au 49-3.
Il s'est engagé.
Jusqu'à la dernière minute, sur ce qu'on appelle le budget de la Sécu, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, les gens ont dit, il n'y arrivera pas. Nous y sommes arrivés. Il y a quelques jours encore, les gens disaient, il faut le 49-3. On n'a pas déclenché le 49-3. Pourquoi ? On vote une loi spéciale pour donner sa chance au débat parlementaire. Que des parlementaires nous disent, arrêtez le supplice, on ne veut plus continuer à
donc
débattre.
Donc vous pensez encore que ça passe sans 49-3 ?
Le Premier ministre l'a dit hier en Conseil des ministres, je vais vous dire, dans ces mots, c'est votable sans intervention du gouvernement. 149.3. Évidemment, pour ça, il faut travailler. Et le travail, j'allais dire, recommence.
Mais vous, Roland Lescure, vous pensez vraiment que ça passe 149.3?
Moi, je pense que c'est possible, oui, qu'on peut y arriver. Ça va demander des efforts à tout le monde. Je me suis fait un peu bousculer par le Sénat la semaine dernière, parce que je leur ai rappelé que dans l'état actuel de la navette, les projets de loi examinés à l'Assemblée et au Sénat, on est à 5,3% de déficit. C'est absolument inacceptable. On a besoin d'un déficit public, d'un budget, avec un déficit public inférieur à 5%. Pas pour faire plaisir au ministère de l'économie, mais pour faire plaisir, si je puis dire, aux Françaises ou aux Français, de manière à ce qu'on commence doucement à rêver de stabiliser la dette publique, que nos prêteurs continuent à nous prêter à des taux relativement limités, et qu'on puisse, à terme, revenir sous les 3%.
Vous n'accepterez pas, Roland Lescure, un budget qui laisse l'État à plus de 5% de déficit?
On est à 5,4%. Et on a réussi à le tenir, tant mieux, en 2025. Vous imaginez qu'on puisse, en 2026, ne pas réduire de 0,4 point le déficit public? Tous nos partenaires européens sont en dessous de ça. On est l'avant-dernier de la classe, on est deux avec la Belgique. Il faut qu'on fasse des efforts qui sont pas incommensurables, qui vaut mieux faire maintenant que le dos au mur dans quelques années quand on ne les aura pas faits. Au fond, aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire un effort pour avancer et on va le faire.
Roland Lescure, sur quel projet, c'est-à-dire qu'on ne sait plus, là vous avez, là il est arrêté à quel moment là le dossier que vous m'avez apporté,
ça, c'est
le projet de loi de finances de 2026,
le 14 octobre.
Celui que vous aviez déposé le 14 octobre, depuis il a été largement amendé, ensuite il a encore été changé par le Sénat. Bref, quand on arrive le 5 janvier et qu'on reprend les discussions, on les reprend sur quel texte?
La Constitution est très claire, le règlement de l'Assemblée est clair. On part du texte du Sénat, le dernier qui a été voté.
Mais celui-là, jamais personne ne le votera. Vous ne trouverez jamais l'amender. De majorité pour le voter.
Exactement, c'est pour ça qu'il faut continuer
donc
à travailler.
Donc on repart à nouveau
dans un examen parlementaire. Mais c'est tous les ans comme ça, Pauline de Malherbe. On a rarement un accord entre le Sénat et l'Assemblée. Je pense que c'est arrivé deux ou trois fois ces 15 dernières années, donc c'est très rare.
Oui, sauf qu'en général, ça ne se passe pas en début janvier, quoi.
C'est vrai, c'est la deuxième année que ça se passe début janvier. On n'a pas réussi à le finaliser dans les temps. Philippe Juvin, vous le disiez, il était sur votre micro, je pense, hier. Il a dit aussi qu'on était à quelques jours d'un accord.
Oui, donc. Mais ça, moi, j'ai toujours du mal à le... C'est-à-dire que c'est toujours genre, oh, il nous a manqué quelques jours. Oui, sauf que certains, avec qui on commence à discuter, le service politique de BFM TV, le service politique d'RMC, disent que c'était pas si facile de trouver un accord. Et puis, il y a les municipales en mars. Est-ce que vraiment, vous êtes convaincus que sans passer par le 49-3, vous trouverez une majorité pour voter ce budget avant les municipales?
Un, je l'espère. Et deux, on va tout faire pour. Maintenant, évidemment, tout ça va dépendre de notre capacité collective à travailler. Parce qu'il y a plein de boulot, vous avez raison, on était près d'un accord, mais il y a encore plein de sujets à traiter. Et de notre volonté d'y arriver. Hier, avec tous les groupes parlementaires que nous avons reçus, avec le Premier ministre, moi j'ai bien senti que les gens avaient envie d'avancer, et envie de passer à autre chose aussi, notamment pour les échéances électorales que vous mentionnez, mais aussi parce que la France avance, le monde avance, et qu'il faut...
Le monde avance, la France avance, et justement, il y a un certain nombre de points que je voudrais évoquer avec vous. Roland Lescure, vous venez de dire, si le vrai budget à proprement parler ne passe pas, ben, il y a un certain nombre de choses qu'on pourra pas faire, il y a les investissements dans la défense, il y a la taxe sur les petits colis. La taxe sur les petits colis, franchement, vous estimez que c'est une arme aujourd'hui? Mais contre les petits colis qui viennent de Chine.
C'est une arme de dissuasion massive. Dans le budget, il y a 2 euros par catégorie d'articles. Donc, vous faites livrer un colis à 5 euros avec deux chaussettes et trois t-shirts, parce que c'est le genre de prix auquel on fait face. D'un seul coup, c'est plus 5, c'est 7. Par ailleurs, moi, j'ai obtenu, au niveau européen, qu'on complète cette taxe par des droits de douane qui seront de 3 euros.
Mais Roland Lescure, pardon, je me suis peut-être trompée, mais moi j'ai quand même l'impression que vos calculs ne sont pas bons. Pourquoi ? Parce que les 2 euros que vous avez fini par obtenir pour à rajouter donc sur les petits colis, ils sont déjà obsolètes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Shein a inauguré cette semaine un gigantesque entrepôt en Pologne, 740 000 mètres carrés dans la région de Varsovie. Ce qui veut dire que votre taxe qui s'applique aux colis qui viennent de Chine ne s'applique pas aux colis qui viennent de Pologne. Donc les colis, ils vont partir de Chine, ils vont faire étape dans cet entrepôt en Pologne et ils vont arriver en France. Et donc vos 2 euros, c'est déjà fini.
Eh bien, grâce...
Vous êtes déjà à la ramasse.
Non,
pardon, mais c'est terrible.
Non, parce que grâce à l'action que j'ai menée pour convaincre tous mes partenaires européens, y compris les Polonais, de rajouter 3 euros, eh bien, en arrivant en Pologne, s'ils arrivent sous la forme
la
de...
Oui, la partie taxe européenne, oui, mais la partie taxe française, en fait, tout ça pour rien.
Mais c'est essentiel, on fait les deux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards de colis qui arrivent en Europe, tous les ans. 4 milliards. Il y a 2 milliards, plus de la moitié, dont la valeur est inférieure à 3,30 euros. Ça veut dire que ces colis, ils vont doubler en prix du jour au lendemain, dès le mois de juillet, quand ce sera en Europe, voire même 2 euros de
plus. Encore une fois, Roland Lescure, ce que vous me dites sur la taxe européenne, ça je l'entends parfaitement, et en effet, ça devrait être efficace. En revanche, il y a eu quand même des jours et des jours de discussion pour arriver à ces 2 euros, qui en réalité, de toute façon... sont déjà obsolètes.
Non, c'est pas vrai. On va encore recevoir.
Chine s'est adaptée et a fait en sorte que les colis ne viennent pas
Alibaba,
officiellement
etc.
de Chine.
Vont continuer. Donc on verra s'ils sont capables, dans un entrepôt en Pologne, de faire atterrir 4 milliards de colis. J'en doute. On verra. Non mais
740 000 mètres carrés quand même.
Mais oui, mais 4 milliards de colis. Des milliers, des centaines de milliers de colis par jour. Un. Mais deux... Effectivement, on réagit. Je peux vous dire qu'il a fallu bousculer l'Europe pour le faire parce que j'étais pas majoritaire. Ils voulaient le faire en 2028 et sur la base de 10%, c'est-à-dire 30 centimes pour un colis de 3.
Et là, ce sera appliqué dès le 1er juillet prochain.
Exactement.
En effet, pour une fois, ça a été rapide. Cela dit, il y a encore une autre victoire de Chine contre le gouvernement. C'est celle qui a eu lieu vendredi. On en a un peu parlé parce que vendredi, on s'est retrouvé effectivement avec un budget qui tombait à l'eau. Mais le tribunal a refusé la suspension de Chine que le gouvernement réclamait.
Et on va faire appel. Et la décision de justice est ce qu'elle est, évidemment, j'en prends acte. Mais on a décidé de faire appel. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'armes nucléaires contre des plateformes qui aujourd'hui ne respectent pas les lois. C'est de là qu'on est parti quand même. Poupées pédopornographiques, armes létales, etc. Qui ne respectent pas nos normes. Des t-shirts, des chaussettes qui ne respectent pas nos normes environnementales. Des jouets qui sont dangereux. Il faut qu'on fasse feu de tout bois. Donc la justice, on l'a saisi la justice.
Que la justice n'est plus adaptée sur ces questions-là. Ou en tout cas qu'elle n'a pas senti effectivement ce qui se passait. Elle n'a pas mesuré ce qui se passe.
Non, mais il y a deux choses. Il y a un phénomène sociétal extrêmement important.
C'est-à-dire que vous menez une bataille, mais vous avez quand même besoin aussi que la justice vous soutienne là-dessus, et ça n'a pas été
fait. Non, mais la justice, elle applique la loi. Donc si la loi ne va pas, faut qu'on la change. Et notamment sur, on l'a déjà fait sur la tarification, parce que d'un seul coup, le modèle va changer du tout au tout. Vous avez 4 milliards, dont 2 milliards de moins de 3 euros qui arrivent tous les ans, ils vont doubler en prix. Ça va changer. Et par ailleurs, on doit délivrer des moyens supplémentaires pour contrôler. Le problème, c'est que quand vous avez 2 milliards qui arrivent tous les ans de colis, vous n'avez pas les moyens de les contrôler. Ces 2 euros, ces 3 euros au niveau européen, ils vont servir à développer des moyens pour contrôler davantage.
Dans le même temps, la Chine a annoncé l'augmentation des droits de douane sur les produits laitiers. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?
Oui, bien sûr, et on va le faire. Nous, on a saisi le commissaire européen, avec mes collègues Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, Nicolas Forissier, ministre des Commerces extérieurs, le commissaire européen Sefcovic, qui est en charge du commerce, et on lui a demandé de contester formellement, officiellement, cette décision. Il y aura un débat contradictoire. Il a 10 jours pour le faire. On est aujourd'hui face à une décision que je considère moins comme inacceptable, qui va affecter directement nos producteurs sous prétexte qui ferait du dumping. Fait qu'en Chine, l'essentiel des produits laitiers, ils viennent de Nouvelle-Zélande et d'Europe. On fait pas du dumping par rapport aux néo-zélandais. Donc on considère que cette décision n'est pas acceptable, qu'il faut la contester. Et on va essayer de convaincre les Chinois de revenir dessus.
Du côté, il y a la Chine d'un côté, il y a les États-Unis de l'autre. Les pompes à chaleur, le leader français des pompes à chaleur, Atlantic, pourrait passer sous pavillon étranger. Est-ce que vous vous y opposerez ?
Non, alors, attendez, moi je regarde tous les dossiers avec la même logique. Je ne suis pas fermé à des investissements étrangers en France. En fait, on a une France qui est ouverte aux capitaux étrangers. On souhaite que les gens viennent investir chez nous. Mais en revanche, je suis vigilant sur les conditions de ces investissements. Atlantique, c'est un fleuron industriel français. Si on a un investisseur étranger qui vient pour développer Atlantique, préserver l'empreinte industrielle, en faire ce qu'il est déjà, mais en mieux, un des leaders mondiaux de la transition énergétique, j'allais dire welcome, bienvenue. Si c'est pour désosser, couper, casser, et j'allais dire prendre l'argent et se tirer, c'est non. Et on l'a fait sur plein de dossiers. On parle de grands frais ces temps-ci. Grands frais, là aussi, qui fait l'objet d'un potentiel rachat par un investisseur américain. Ils nous disent, on va développer grands frais, on va continuer à acheter français, on va continuer à vendre des produits de qualité. Si c'est le cas, et on va vérifier, welcome. Si c'est pas le cas, go back home.
La Poste, victime d'une cyberattaque, une de plus. Il y a eu le ministère de l'Intérieur, il y a eu le ministère des Sports, là c'est la Poste. Au moment où on se parle, Roland Lescure, la cyberattaque a toujours lieu.
Oui, elle se poursuit. Moi, j'ai échangé avec Marie-Ange Debon, la présidente directeur générale, hier et ce matin encore. Elle a baissé en intensité, mais ça reste une cyberattaque qui se poursuit. Alors, de manière très concrète quand même, pour rassurer les gens, ce que ça veut dire, c'est qu'un, aucune donnée personnelle n'a été aspirée. De ce point de vue-là, on est tranquille. Deux, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que les colis arrivent à temps pour Noël. Et j'allais dire merci et bravo aux postiers qui ont déjà une période extrêmement occupée, d'habitude.
Et ils vont y arriver.
Et là, ils mettent les bouchées doubles pour y arriver. Et ils me disent que oui, ils vont y arriver. Mmh. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les sites de la Poste sont fermés ou en tout cas difficiles d'accès. Donc si vous avez demandé un colis pour Noël, vous n'avez pas aujourd'hui les moyens d'aller voir sur le site où il en est.
Mais
le colis, lui, il est en train d'arriver.
Donc ça n'a pas impacté l'arrivée elle-même du colis. C'est simplement qu'on peut plus le tracer sur l'application.
Voilà, ça a introduit quelques freinages hier. Ils accélèrent pour que tout ça arrive à temps Noël. Et vraiment, chapeau.
Donc il faut se rendre directement dans son bureau de poste.
Exactement.
Pour aller récupérer son
colis. Il arrivera peut-être. Non, vous aurez quand même le postier qui vous laissera un avis de passage dans votre boîte aux lettres. Et ensuite, vous irez à la poste chercher votre colis. Vous n'avez pas besoin d'aller 8 fois à l'ancienne. Parfois, ça marche.
Vous avez retrouvé, je continue à chercher, hein, j'ai cherché trace, en tout cas d'articles là-dessus, 10 milliards de TVA perdus, on en parlait il y a un mois, entre 5 et 10 milliards de baisse de recettes de la TVA par rapport à ce qui était espéré. Est-ce que vous savez ce que c'est devenu?
Alors, sur l'année 2025, vous voulez dire, on est en dessous de ça, on est maximum autour de 4-5, c'est 2% des recettes globales de TVA. Donc ça, c'est ce
vous
que
vous avez compris pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu cette entrée d'argent.
Mais sans doute, on va analyser ça j'irai de manière très précise, mais sans doute, par exemple, l'essor des petits colis, ça aide. Parce que la TVA là-dessus, elle est évidemment moins importante que quand vous allez chez le commerçant. C'est pour ça qu'il faut d'équité fiscale entre ce qui arrive du bout du monde par des petits colis et ce qu'on va acheter au coin de la rue. Mais aujourd'hui, on est sur des marges d'erreur beaucoup plus faibles que celles qu'on a connues en 23 ou 24, où là, on a eu des vrais moins-values. On a un peu moins de recettes de TVA que prévu. On a un peu plus de recettes d'impôts sur les sociétés que prévu. Et au total, on est en ligne avec ce qu'on avait voté, 5,4%.
Donc, d'accord. Donc, il n'y a pas, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une petite inquiétude quand
je comprends.
Entre 5 et 10 milliards de moins.
Aucune mauvaise surprise sur le déficit. On sera en phase avec ce qu'on a voté.
On sera aussi mauvais que ce qu'on avait prévu d'être.
Ben, en tout cas, on sera à 5,4. Il n'y aura pas de décalage. Vous savez qu'en 23-24, on a eu de mauvaises surprises. Cette fois-ci, on est en phase. On a même.
J'aimerais bien que de temps en temps, il y ait des bonnes surprises.
Alors, j'allais le dire, on a quand même des bonnes surprises sur la croissance.
Bon.
Ça va plutôt mieux que ce qu'on espérait. J'allais dire, tant mieux. Et continuons ça, votons
un
budget.
Et une bonne nouvelle tout de même pour Noël, c'est aussi le PEL. Là, vous pouvez nous confirmer ce matin que les taux vont augmenter.
À partir du 1er janvier 2026, tout nouveau plan épargne logement qui permet de financer une acquisition ultérieure de logement, le taux passera de 1,75% à 2%.
Donc là, ça c'est une bonne nouvelle, y compris pour le logement et pour le bâtiment.
Bien
il
sûr.
Pleure, hein, la prime Rénov qui avait
pour
été suspendue, désuspendue, resuspendue.
Dès qu'on aura un budget, on pourra réouvrir le guichet.
Et vous ne l'avez
en loi spéciale, pas de guichet.
Et vous nous l'avez dit ce matin, vous continuez à espérer effectivement un budget et même un budget 149.3. Merci Roland Lescure,
merci
ministre de l'économie, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Joyeux Noël à vous. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.
Restez bien sur RMC dans un instant, on vous a gardé le meilleur de Nicolas Cantelou.
RMC vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Carrefour.
Pour l'achat d'un kilo de crevettes roses cuites, label rouge ASC filière qualité Carrefour à 24,90€, cagnotez 4,98€ sur votre carte Club Carrefour. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Madagascar, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Le meilleur de Nicolas Canteloup, c'est tout de suite, souvenez-vous, dans le face-à-face, j'avais reçu Patrick Sébastien qui voulait peser sur l'élection présidentielle et il était resté face à Canteloup.
Ben, rebonjour, ça me fait tellement plaisir de voir mon vieux pote.
C'est parti, Jérôme Fourquet dit que vous incarnez la France des campings.
Non mais attends, pourquoi tu me parles de camping, ça m'énerve, c'est une caricature. Les Français qui me suivent, c'est pas seulement ceux des campings, hein, c'est aussi ceux des mobilhomes, hein, des camping-cars, des caravanes avec les gypsies. Hein, voilà. Non, moi ce que je dis, alors c'est urgent, faut renverser la nappe et changer la table.
Non, c'est le
faut renverser la nappe, faut renverser la table sans changer la nappe. Et ça c'est pas facile.
Laurent Nunez se félicitait à l'instant de la libération de Boualem Sansal et...
Excusez-moi, Apolline Malherbe. Apolline Faune Malherbe. Je reprends mon souffle. Ah, que c'est bon de rire.
Angela Merkel est avec nous, mais qu'est-ce qui vous fait autant rire?
C'est à cause de l'autre, là, le comique. Et votre invité, Laurent Nunez. Il a joué avec vous. Nunez. Il m'a fait mourir avec son sketch. Je me félicite. Oui, on se félicite. Nous nous félicitons. Il a conjugué le verbe félicite à tous les temps. Alors que c'est pas vous les fans soucis qui avez libéré les sensations, c'est nous. Vous, ça fait un an que les Tebboune, ils vous baladent. Nous, lundi soir, on appelle Tebboune. Allô, Tebboune, tu peux nous libérer les sensations? Mercredi soir, il était dehors, les sensations. Vous, c'est nul. C'est comme si vous mangez un couscous algérien avec des baguettes aussi peu efficaces. Chez Manta, place Hémulite. Ça fait des baguettes.
Emmanuel Macron est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel Macron. Monsieur le Président, vous êtes heureux, j'imagine, de la libération de Boualem Sansal.
Oui, bonjour Madame de Malherbe. Écoutez, oui, c'est une, je vous le confirme, excellente nouvelle.
C'est tout?
Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens de vous le dire. C'est une excellente nouvelle pour notre compatriote.
Oh bah je vous imaginais plus enthousiaste quand même, Monsieur le Président. Enfin, c'est quand même formidable ce qu'ont obtenu les Allemands.
Ah, voilà. C'est ça que vous vouliez préciser à tout prix, que ce sont bien les Allemands, voilà, qui ont obtenu la libération de Boualem Sansal. Ben oui, forcément, parce qu'eux, ils ont des avions. Hein. Nous, c'est vrai qu'en France, on a très peu d'industrie aéronautique. Hein. Et quand bien même on aurait eu un avion qui marche, est-ce qu'on aurait eu assez d'essence, mettre l'argent pour mettre de l'essence dedans? Pas sûr. Et puis, c'est vrai que c'est normal qu'ils soient soignés aussi en Allemagne, hein, puisque nous, tout le monde le sait, à l'hôpital Pompidou, on a juste une boîte de Doliprane pour soigner les Français.
Oh, hein. C'est pas si mal, Monsieur le Président, c'est la coopération européenne.
Oui, bien sûr, c'est la coopération. Non, moi j'appelle ça, Madame de Malherbe, de l'humiliation. Hein, vous voulez pas rajouter aussi que ma réforme des retraites a été supprimée hier? Voilà, ainsi que Bruno Le Maire aussi m'a refilé sa responsabilité sur la dette de 3500 milliards avec sa putain de lettre à la con. Vous voulez pas dire ça aussi? Vous voulez pas aussi rajouter que les agriculteurs me chient dessus depuis hier? Parce que j'ai osé dire que le Mercosur était peut-être un bon accord pour eux.
Je peux le dire.
Moi, je vais vous dire une chose, Madame de Malherbe. Hein, quelque part, j'ai envie que les Sarkozy, les Boualem Sansal, j'ai envie de faire comme eux, oui, d'aller en prison. Oui, parce que vous voyez, il y a un avantage à la prison, une vertu, c'est qu'en prison, on va faire la paix.
Merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent, elles vont débattre pendant 3 heures de l'actualité sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo, Abel Boyi, l'éducateur, et puis notre éleveur bovin de Saône-et-Loire, Didier Giraud. À tout de suite.